Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Dans Free Fall, Chute libre, paru en français sous le titre Le triomphe de la cupidité en 2010, édition LLL, Les liens qui libèrent, l'économiste Joseph Stiglitz, mondialement salué et prix Nobel d'économie 2001, tente, après la crise financière de 2008, d'apporter des solutions afin, je cite, « de repenser le monde, de réformer une science économique qui s'est fourvoyée, entraînant dans son sillage l'accroissement des inégalités, la montée de la pauvreté ou l'aggravation de la crise environnementale ». Extrait du chapitre 10 « Pour une nouvelle société ». On dit que voir la mort de près force à réévaluer ses priorités et ses valeurs. L'économie mondiale vient d'échapper à une expérience très proche de la mort. La crise a révélé les vices du modèle économique dominant, mais aussi ceux de notre société. Trop de gens avaient profité des autres. La confiance s'était brisée. Presque tous les jours, on apprenait les méfaits de professionnels du secteur financier. Pyramide de Ponzi, délit d'initié, crédit prédateur, multiples stratagèmes des cartes de crédit pour soutirer le plus d'argent possible à leurs utilisateurs impuissants. Ce livre s'est toutefois concentré non sur ceux qui ont violé la loi, mais sur ceux, et ils sont légion, qui, dans les limites de la légalité, ont créé, conditionné, reconditionné et vendu des produits toxiques et commis de telles imprudences qu'ils ont failli abattre tout le système économique et financier. Le système a été sauvé, mais à un coût auquel on a du mal à croire. La thèse de ce chapitre est simple. Nous devrions profiter de la période actuelle pour faire les comptes et réfléchir, penser au type de société que nous aimerions avoir et nous demander, sommes-nous en train de créer une économie qui nous aide à réaliser ces aspirations ? Nous nous sommes engagés très loin sur une autre voie. Nous avons créé une société où le matérialisme l'emporte sur l'engagement moral, où la croissance rapide que nous avons atteinte n'est durable ni sur le plan environnemental ni sur le plan social, où nous n'agissons pas ensemble, collectivement, pour répondre à nos besoins communs, car l'individualisme acharné et le fanatisme du marché ont miné tout sentiment de communauté. Ils ont conduit à une exploitation éhontée des moins prudents et des moins protégés et à une fracture sociale croissante. Il y a une érosion de la confiance, et pas seulement à l'égard de nos institutions financières. Il n'est pas trop tard pour colmater les brèches. L'une des leçons de cette crise est la nécessité d'une action collective. L'État a un rôle à jouer, je n'ai cessé de le souligner, mais il y en a d'autres. Nous avons laissé les marchés modeler aveuglément notre économie, et ce faisant, ils ont aussi contribué à nous modeler, nous et notre société. Voici l'occasion de nous demander si la voie sur laquelle ils nous ont placés est bien celle que nous souhaitons. J'ai montré que nos marchés financiers orientaient mal les capitaux, mais le coût réel de l'emballement de ce secteur a peut-être été infiniment plus lourd. Il a mal orienté notre ressource la plus rare, le talent humain. J'ai vu trop, beaucoup trop, de nos meilleurs étudiants entrer dans la finance. Ils ne pouvaient pas résister aux méga rémunérations. Quand j'ai commencé mes études, les meilleurs choisissaient les sciences, l'enseignement, les lettres, la médecine. Ils voulaient utiliser leur cerveau pour changer le monde. Je me souviens clairement de l'avis de mes parents quand, comme tous les adolescents, je me demandais ce que j'allais faire plus tard. L'argent n'a pas d'importance, il ne t'apportera jamais le bonheur. Étrange conseil pour un futur économiste. Sers-toi du cerveau que Dieu t'a donné pour te rendre utile aux autres. C'est ça qui te donnera de la satisfaction. Si les bénéfices sociaux étaient proportionnels aux profits privés, les méga rémunérations gagnées dans la finance reflèteraient des méga progrès de productivité sociale. C'est parfois vrai, mais trop souvent faux, comme dans la gestation du désastre actuel. La théorie économique orthodoxe postule que nous naissons avec des préférences pleinement constituées, mais nous sommes modelés par ce qui se passe autour de nous, notamment et peut-être surtout par l'économie. Trop de gens en sont venus à croire que les salaires reflètent les contributions à la société et ils ont conclu que les plus fastueusement rémunérés lui avaient sûrement apporté le plus. Trop de gens en sont venus à apprécier ce que le marché apprécie. La rémunération élevée des banquiers disait « la banque, c'est important ». Que le marché a changé notre façon de penser, on en a un bel exemple avec les attitudes en matière de rémunération incitative. Qu'est-ce qu'une société où un PDG déclare « si vous me payez 5 millions de dollars et pas plus, vous n'aurez qu'un petit pourcentage de mes efforts. Si vous voulez tout, eh bien, il faut me donner une part des profits. » Or, c'est bien ce que disent les PDG quand ils réclament qu'on les motive par une rémunération qui augmente avec les résultats. Il y avait autrefois un contrat social sur le partage raisonnable des gains issus d'une action collective dans l'économie. Au sein de l'entreprise, le salaire du président représentait 40 fois celui du travailleur moyen. Cet écart semblait important et il était supérieur à ce qui se pratiquait en Europe et au Japon. Dans la plupart des entreprises, les dirigeants sont aussi des salariés au sens où ils n'en sont pas les propriétaires. Néanmoins, ils sont en position de prendre les décisions, y compris sur la part des revenus de l'entreprise qui ira aux actionnaires, au personnel et à eux-mêmes. Mais quelque chose s'est produit il y a un quart de siècle, quand a commencé l'ère de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. Tout sens de l'équité des rémunérations a disparu, remplacé par une autre préoccupation, quelle part les dirigeants pourraient s'approprier. Ce qui se passe sur les marchés et en politique en dit long sur le pouvoir économique et politique. Tout cela envoie aussi des messages forts auxquels les jeunes sont réceptifs, et c'est ainsi que notre société est modelée. Lorsque nous taxons les profits des spéculateurs bien plus légèrement que les revenus des travailleurs qui gagnent durement leur vie, non seulement nous incitons davantage de jeunes à s'orienter vers la spéculation, mais nous disons concrètement qu'en tant que société, nous estimons davantage la spéculation.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.